Tina, bonjour.
Bonjour.
Alors une Tina qui appelle une autre, en tout cas il y en a une qui est aux États-Unis, une autre à Kinshasa bien sûr, c'est votre journaliste. Et vous l'avez compris, c'est l'émission La Vue des Congolais à l'étranger. Alors nous sommes en ligne avec une jeune fille qui se trouve aux États-Unis d'Amérique, elle s'appelle Tina Guetali. Rebonjour.
Bonjour Tina.
Alors Tina, tu te trouves dans l'état du Missouri. En fait, nous on connaît ici le fleuve Missouri, mais c'est pas ça, ça c'est vraiment un état. Hein. Alors tu es dans quelle ville exactement du Missouri?
Oui, à Columbia, c'est une toute petite ville, c'est pas si mal que ça, il y a une grande université.
Oui, en fait, on entend souvent parler de Columbia University, c'est parmi les plus grandes universités, en fait, des États-Unis, ou on confond?
Oui, c'est vraiment une grande université, puisqu'il y a des gens, il y a des étudiants qui viennent de partout, des grandes villes de Californie, de Los Angeles qui viennent étudier ici. C'est vraiment une grande université, c'est vraiment réputé.
Voilà, alors pour situer un tout petit peu, votre ville, en fait, Columbia n'est pas très loin de Saint-Louis, de Kansas City également.
Ouais, c'est pas très loin, c'est deux heures de route.
Oui, Tina, alors si aujourd'hui tu te retrouves aux États-Unis, tu es partie pour un regroupement familial. En fait, tu es là depuis combien de temps?
Ça fait presque 2 ans que je suis ici, le mois de...
Voilà, tu feras bientôt 2 ans. Donc tu as quitté le Congo il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as quitté la ville de Kinshasa pour aller retrouver ton père, hein, qui lui vivait aux États-Unis. On le sait, c'est ce qu'on appelle un regroupement familial. Alors explique-nous un tout petit peu dans ton cas comment cela s'est passé. Est-ce que ça a été facile, les démarches d'abord ici au niveau du Congo, hein, avant de te retrouver là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? Quels documents tu as apporté à l'ambassade pour que ce regroupement puisse bien se passer? Parce que en ce moment, ça devient quand même compliqué pour beaucoup de gens.
C'était pas facile les démarches pour venir aux États-Unis. Ça m'a pris un peu beaucoup de temps, ça a pris 2 ans, presque 2 ans. C'était un peu difficile puisque l'ambassade m'a demandé tout le temps le document pour avoir de preuves qu'il y a quelqu'un, est-ce que c'est vraiment mon père, quelque chose comme ça.
Quel genre de questions revenaient souvent? Donc ça veut dire qu'ils voulaient vraiment avoir la certitude que c'était bel et bien ton père qui t'invitait aux États-Unis.
Ils voulaient vraiment savoir est-ce que c'était vraiment mon père ou... Parce qu'il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui sont aux États-Unis ou bien en Europe qui mentent, qui disent que non, ils ont une famille, quelque chose comme ça, mais ce sont des mensonges. Donc ils voulaient vraiment avoir des preuves jusqu'à ce qu'ils m'ont demandé de faire l'examen pour être sûr que c'était mon père. Et je l'ai fait et l'examen a été sorti et c'était
positif.
C'était mon père.
Et à part le test ADN, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des choses importantes qu'ils veulent avoir en leur possession ou savoir avant de t'accorder le visa de regroupement familial?
Ils m'ont demandé des questions comme si j'ai vécu avec mon père quand j'étais gosse, quelque chose comme ça. Des questions un peu bizarres, quoi. Mais quand même, je les ai répondu, c'est que je pourrais répondre.
Et pourquoi ça a pris beaucoup de temps? Pourquoi 2 ans? Pourquoi est-ce que quand tu viens la première fois avec les documents nécessaires, on pose ces questions et puis bon, après ils jugent si c'est bon ou pas, donnent le visa ou non. Mais pourquoi est-ce qu'ils attendent 2 ans? Donc ils veulent te piéger, ils veulent avoir d'autres preuves, ils prennent vraiment leur temps avant d'accorder le visa?
Je crois qu'ils voulaient savoir si réellement... c'était vraiment de la vérité où je mentais.
Au bout de 2 ans, tu as pu obtenir ton visa. Qu'est-ce que ça t'a fait? Tu étais contente?
Ouais, j'étais contente puisque j'étais pas seulement contente parce que j'allais aux États-Unis et j'étais contente pour aller retrouver mon père.
Et soulagée en même temps, hein, après toutes ces épreuves par lesquelles tu es passée, toutes ces démarches.
Ok, j'étais soulagée quand j'ai eu mon visa. Mais le premier jour que je suis partie pour prendre mon visa, on m'a dit que c'était... Je suis partie pour prendre mon visa, mais c'était les faux visas qu'on m'avait donné. C'était les visas qui étaient expirés. Quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit non, écoute, tu peux revenir encore pour 2 semaines ou 1 semaine après parce que tu ne peux pas partir avec ces visas. Et j'étais surprise.
À l'ambassade, ils t'appellent pour te dire que ton dossier a abouti, ils te donnent un visa, mais un visa expiré. Et ensuite, tu reviens à l'ambassade, ils te disent que c'est pas le bon visa, il faut que tu reviennes. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont mal organisés ou...
Je sais pas ce qui s'était passé. Ils m'ont donné le visa, ils ont donné le visa à tout le monde. Et puis, quand c'est arrivé à mon tour, l'équipe qui m'avait donné, il me dit non, est-ce que tu peux vérifier si tout est bon, les dates, toutes choses étaient très bien. Alors je lui dis, je peux regarder. Alors quand je vérifiais, la date était, donc ils m'ont donné le visa qui était expiré, la date était déjà passée. Ils m'ont donné le visa en avril, mais la date était déjà, c'était expiré, donc le visa était expiré depuis janvier. Alors ils m'ont dit de revenir après 2 semaines ou 1 semaine pour prendre notre visa.
Est-ce que ce n'est pas une sorte de preuve par lesquelles ils te font passer pour voir comment tu vas réagir? Je me demande si c'est pas fait exprès.
Je sais pas, vraiment, j'ai jamais compris qu'est-ce qui s'était passé, mais bon, quand même, j'étais rentrée à la maison et j'étais vraiment déchue et...
Mais finalement, tu es quand même retournée par là, une semaine après, tu as eu le bon visa, avec les bonnes dates.
Exactement.
Alors, une autre grande étape va commencer dans ta vie. Tu dois partir aux États-Unis, tu as fait d'abord Washington et puis tout de suite après l'état du Missouri. Tu as vu ton père que tu n'avais pas encore vu, que tu ne connaissais pas en fait. Mm-hmm. Parce qu'il est parti quand tu étais encore bébé. Alors, comment ça s'est passé?
La rencontre a été émotionnelle. I mean, je suis déjà une grande fille et puis subitement, il voit une grande dame qui arrive et waouh, c'était vraiment waouh, l'émotion était vraiment profonde.
Mais vous étiez souvent en contact au téléphone, vous parliez souvent?
Oui, quand j'étais au Congo, on s'est parlé, on s'envoyait des messages, on était en contact. Mais c'est toujours différent quand tu vois quelqu'un. Et au téléphone, c'est toujours différent.
Alors, Tina, une fois arrivée, tu as rencontré ton père en tout cas. Alors, la vie maintenant aux États-Unis, il fallait t'adapter, il fallait reprendre tes études, commencer des démarches pour peut-être d'abord apprendre la langue, hein, ce qui est la première étape pour tout étranger qui arrive aux États-Unis. Comment ça s'est passé?
Oh, c'est vraiment un peu difficile pour moi, puisque je connaissais même pas la langue. Au Congo, on peut prendre les cours d'anglais, mais c'est pas vraiment les cours d'anglais, hein. Quand tu arrives ici, c'est vraiment différent de s'adapter à tout, c'était un peu difficile au début, puisque je suis arrivée dans un monde où je connaissais personne. Même mon père, c'est vrai, c'était mon père, mais vraiment...
Tu venais à peine de le rencontrer aussi. Et puis il était occupé, il travaillait, donc de temps en temps il était laissé seul à la maison, il fallait que tu te débrouilles toute seule, que tu ailles peut-être prendre un bus ou un taxi pour aller, pour faire telle ou telle démarche. Alors tu parlais pas la langue.
Exact. Ah, je parlais pas la langue aussi, mais bon. Quand même, j'ai cherché l'école, j'ai cherché où. Je suis partie à l'université, je suis partie m'inscrire. J'ai commencé l'anglais et c'était un peu difficile au début, mais j'ai appris l'anglais pendant 6 mois. Ah, mais j'ai senti tellement que j'étais prête pour aller à l'université, pour prendre les cours à cours de crédit, pour commencer les cours.
Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu t'es vraiment intégrée 2 ans plus tard? Non seulement tu as appris la langue, tu as commencé les cours à l'université, tu as peut-être un job, tu as pu trouver un petit boulot entre-temps?
Exactement. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé l'école, j'ai trouvé le boulot. Donc, c'est même pas 5 mois, c'est 4 mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait 4 mois, j'ai trouvé l'école, j'ai trouvé directement le petit job. Mais c'était vraiment trop vite. Hein.
Et des amis, est-ce que tu t'es fait des amis aussi? C'est important pour s'intégrer dans une ville ou un nouveau pays.
Exactement. J'ai quelques amis, mais bon. Le problème avec, les problèmes ici aux États-Unis, c'est pas comme chez nous. On n'a pas le temps. Et tout le monde est occupé, au fait. J'ai quelques amis américains, j'ai des amis chinois, j'ai des amis coréens, j'ai des amis arabes, parce que j'ai étudié dans une école qui était internationale. Je connais un peu beaucoup de gens, mais on n'a pas vraiment le temps, parce que on travaille, on part à l'école, on n'a pas le temps pour... Tu vois, c'est voir à tout moment.
Mais est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, qu'on a plus de chance de se faire des amis dans, avec les immigrés, les gens qui, comme nous, viennent de loin, de l'étranger, qu'avec les Américains eux-mêmes? Donc, comme tu fréquentes une école d'anglais, par exemple, qui est aussi fréquentée par des Chinois, par d'autres Africains qui viennent d'arriver, vous devenez facilement amis qu'avec les Américains
Exactement. Le problème, c'est quoi? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment, ils se disent non, ils vont pas se donner, hein, parce que tu vois, ils se sentent un peu humiliés, tu vois, des choses comme ça, parce qu'ils parlent pas bien anglais, parce que tu vois. Mais bon, quand tu te donnes aux gens, les gens vont se donner à toi aussi. Mais bon, tellement le problème, on a des cultures différentes, quelque chose comme ça, mais bon. Ils sont cool, ils sont gentils et... Quand tu les approches, ils vont s'approcher aussi, tu vois.
Donc, tu as des amis américains, ils t'ont bien reçu, parce qu'on va dire aussi, Columbia, c'est en fait une petite ville, et il n'y a pas souvent beaucoup d'étrangers dans ces zones-là, parce que les gens préfèrent plutôt aller dans des grandes villes, dans des grandes métropoles reconnues, comme New York City, comme Washington, que d'aller dans ces genres de petites villes. Et donc, du coup, il y a peu d'étrangers.
Mais Columbia, la ville là où je suis, c'est une petite ville, mais il y a toujours des étrangers, il y a des immigrants. Mais le problème, c'est quoi? C'est la ville que je suis, c'est une ville républicaine, quelque chose comme ça. Ils ont des, comment on les appelle? On les appelle les redneck, quelque chose comme ça. Ils sont un peu racistes, quelque chose comme ça. Mais bon, quand même, même s'ils sont racistes, mais il y a toujours des immigrants, il y a toujours des noirs, il y a toutes sortes de cultures ici.
Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu aimes l'Amérique?
Je dirais oui, parce que je n'ai pas le choix, tu vois. Je dois, même si j'étais en Afrique ou bien j'étais à côté de ma famille, je pourrais toujours savoir comment voler, comment créer ma vie, comment commencer.
Mais quels sont
vie,
les bons côtés, par exemple, des États-Unis que tu ne saurais trouver en Afrique, au Congo, notamment?
Les bons côtés ici, c'est tu vas à l'école, tu finis tes études et tu as un diplôme. Tu peux rentrer en Afrique et tu peux avoir un bon boulot, je pense.
Voilà, merci Tina. À très bientôt.
Merci Tina Salama.